moi j'étais très complexée, et je le suis d'ailleurs encore un peu par mes pieds, parce que en danse classique il faut avoir les pieds arqués comme on dit, et moi je trouve toujours que j'ai pas les pieds assez arqués, donc c'est quelque chose qui me complexe. Il y a un moment à l'école de danse aussi où je trouvais que j'avais des cuisses trop grosses. Mais après, je pense en soi, comme tout le monde, en vrai, on a tous des complexes et des choses qui nous obsèdent, même parfois. La seule différence, c'est que bah, nous, on est devant le miroir en collant toute la journée, donc c'est plus présent.
C'est l'histoire d'un gamin qui ne se rêvait pas danseur, mais que le talent a hissé étoile, une fois jeune homme. Pour lui, ce serait médecin. C'est à ça qu'il pensait. La danse, Guillaume Diom aimait, mais sans la pression d'un objectif à atteindre. L'ambition professionnelle est venue quand il a eu 16 ans. S'il a hésité, pris du temps, c'est grâce à une exigence. Ne jamais perdre de vue le plaisir de danser. Même si pour l'atteindre, il peut y avoir de la souffrance physique ou psychologique, question que Guillaume Diom n'est pas du genre à éluder. Mais aujourd'hui, quand on le voit sur scène, le plaisir de danser est ce qu'on voit d'abord. Une joie ample, accessible, le bonheur de jouer. Quand il parle, c'est en souriant, et ça s'entend. J'ai rencontré Guillaume Diop dans sa loge de l'Opéra de Paris le temps d'une petite pause, comme il dit, entre deux répétitions. Celle de La fille mal gardée, qu'il a dansée jusqu'à hier soir, et celle de Don Quichotte, qu'il jouera à l'Opéra Bastille du 19 au 23 avril.
Totémique. Rebecca Manzoni sur France Inter.
Alors, il y a un dicton qui dit que si on ne danse pas un jour, on le sent. Si on ne danse pas deux jours, notre professeur le voit. Et si on ne danse pas trois jours, le public le voit.
Aujourd'hui, vous avez 24 ans. Mm-hmm. Vous dansez depuis que vous en avez 4.
Oui.
Comment la danse a façonné votre corps ?
Déjà, je pense que ça dessine un corps très puissant. On est clairement des sportifs de haut niveau. Quand on fait un ballet, ça dure 3 heures. Mais une puissance et une résistance à l'effort qui n'est pas visible. Pour les garçons, il y a quelque chose où il faut avoir suffisamment de force pour porter les filles, mais en même temps, il ne faut pas avoir des muscles trop gros.
Vraiment, pourquoi il ne faut pas avoir des muscles trop gros ?
Parce que esthétiquement, de la salle, ce n'est pas toujours très joli dans l'esprit qu'on a des rôles classiques, enfin, d'avoir des muscles trop gonflés, je veux dire. Je veux dire, on ne peut pas faire aller à la salle de sport et se retrouver avec des biceps énormes, parce que esthétiquement, mais au-delà de esthétiquement, c'est même purement techniquement, il y a des choses qui font que c'est trop dur. Par exemple, moi j'ai un ami qui à un moment était à fond dans la muscu, et on a souvent des positions de bras où on a la main qui touche l'épaule, et son biceps était tellement gros qu'il ne pouvait plus toucher sa main avec son épaule. Donc au-delà de quelque chose d'esthétique, c'est quelque chose de purement pratique, quoi.
Vous dites puissant, et en même temps, vous avez 24 ans, mm-hmm, et un visage très juvénile.
Oui.
Vous avez un visage de gosse.
Oui, complètement. Oui, je sais. Et d'ailleurs, y a beaucoup de gens qui pensent que j'ai moins de 24 ans. Mais oui, parce que c'est une puissance qui est musculaire, en fait. C'est pas une puissance... Enfin, je sais pas comment dire, mais voilà.
Qu'est-ce qui vous fait peur ?
La blessure, déjà, c'est quelque chose qui...
Ça vous est arrivé ?
Oui, ça m'est déjà arrivé. J'ai eu une fracture de fatigue au tibia il y a 2 ans. J'ai fait des spectacles de la Bayadère, qui est un ballet avec énormément de sauts, notamment qui atterrissait sur mon tibia, où j'ai énormément souffert. Et à la fin de mon dernier spectacle, j'arrivais même plus à marcher, donc...
Vous vous êtes acharné, vous vous êtes abîmé.
Oui, je me suis abîmé, bah... Pour vous donner un peu une temporalité, j'ai commencé à avoir des douleurs, je m'en souviens très bien, en octobre 2021. Et dans la foulée, j'étais distribué sur le rôle de Basilio dans Don Quichotte, donc le rôle principal. C'est un rôle où il y a énormément de sauts. Là, j'ai commencé à avoir très mal, mais j'ai continué, j'ai fait mes spectacles.
Parce qu'on se dit quoi ? On se dit, faut pas que je laisse passer le truc ?
C'est ça. En fait, je me disais vraiment, là, c'est ma chance. On me voit, ils ont envie de me voir. Si je m'arrête, j'ai aucune certitude, de par le fait que j'étais pas encore danseur étoile, que quand je reviendrai de ma blessure, j'aurai toujours ces rôles-là. Donc c'était vraiment, je me disais, là c'est maintenant ou jamais, je peux pas me permettre de pas danser et de pas saisir ces opportunités-là. Et je suis rentré en janvier, j'étais de nouveau distribué sur un rôle principal qui était la Bayadère. Et là, c'était vraiment dur, parce que ça me faisait vraiment très très mal.
Mais vous le disiez pas ?
Non, je le disais pas. C'est pas un bon exemple. Hein.
C'est-à-dire que vous souffriez le martyre, mais vous planquiez le truc.
Je planquais et surtout, je refusais de faire des images, des IRM, parce que je voulais pas savoir ce que j'avais. Parce que je savais que j'avais mal. Plus ça allait, plus je savais que c'était quelque chose de grave. Mais il y a un truc où je me disais, si je sais pas, ça existe pas.
Le déni, quoi.
Le déni, mais à son paroxysme. Et puis après... J'en ai parlé à Aurélie Dupont, qui était directrice à l'époque, et elle était « Non mais Guillaume, il faut que tu fasses des images ». Et très gentiment, elle m'a elle-même pris rendez-vous chez l'IRM pour être sûre que j'y aille. Et là, du coup, on a vu que j'avais une fracture de fatigue et je me suis arrêtée. Et c'est bête. Enfin, aujourd'hui, je le regrette parce que c'est maintenant, c'est quelque chose que j'aurais un peu mal toute ma vie, en fait. Parce que j'ai trop dansé dessus et que du coup, c'est... Ça ne se passe jamais. Bah, d'ailleurs, on voit qu'encore j'ai une bosse là.
Ah oui, effectivement.
Et ça, ça partira jamais. Donc, et j'apprends aussi à être plus intelligent et plus mature sur la gestion de mon corps, qui est mon outil de travail.
Vous apprenez à poser des limites, en fait.
Exactement. Et elle est là aussi, la grande chance que j'ai d'être nommée si jeune, c'est que j'ai cette forme de sécurité, de me dire que... Je me le souhaite pas, mais si j'ai une blessure et que c'est grave, je me sentirai pas obligé de continuer. Parce que je saurais que dans tous les cas, je continuerai de faire ces rôles.
Là, j'aimerais qu'on écoute la chanson que vous avez choisie.
Oui.
C'est une chanson de Lauryn Hill, une chanteuse à la fois de soul et de rap américaine. Le titre de la chanson, c'est « I gotta find peace of mind ».
Oui.
On l'écoute. On l'écoute grâce à Guillaume Diop, danseur étoile.
I gotta find peace of mind. I know they're not recording. I gotta find peace of mind.
C'est Totémique sur France Inter.
See, this is what that voice in your head says when you try to get peace of mind. I gotta find peace of mind. I gotta find peace of mind. He says it's impossible, but I know it's possible. He says it's impossible, but I know it's possible. He says there's no me without him. Please help me forget about him. He takes all my energy, trapped in my memory, constantly holding me, constantly holding me.
J'ai découvert, je pense, il y a 3 ans. C'était un moment dans ma vie où j'étais un peu perdu et où je me sentais pas légitime de faire ce que je fais pour plein de raisons différentes. Et c'est une musique qui m'a extrêmement ému de par sa voix, de par la simplicité de juste une guitare et une voix et la puissance de ce que raconte cette chanson. Elle raconte surtout que la paix de l'esprit, c'est quelque chose qui vient de soi, qu'on ne doit pas s'attendre à ce que ce soit quelqu'un d'autre qui nous apporte cette paix-là, cette paix intérieure, et que c'est quelque chose qu'on doit décider, qu'on doit trouver et qu'on doit chérir.
Alors comment vous l'avez trouvé, où ?
Comment je l'ai trouvé ? Je pense que je la cherche encore, parce qu'on a toujours cette recherche de perfection. Mais il y a d'autres périodes où je sors, où je vais boire des coups avec mes potes et...
Dingue !
Non mais oui, c'est vrai, et je pense que c'est important, parce que sinon moi je pourrais pas, en fait je pèterais un câble si j'étais là tous les jours à penser que danse, comment je vais réussir mes pirouettes, comment je vais réussir mes sauts. Je pense que c'est pas sain en plus d'être à ce point omnibulé par quelque chose. Ça peut pas être l'entièreté de ma vie. Ce qui se passe ailleurs de ce bâtiment, c'est aussi important, et ce sera bénéfique aussi pour ce que je fais ici, parce que j'interprète des personnages qui ne sont pas danseurs, même si je les danse, ce ne sont pas des danseurs. Je raconte des histoires d'amour, des histoires de trahison, des histoires d'amitié, des fois il y a de la mort, des fois il y a des meurtres, des choses comme ça. Je ne dis pas que je vais aller tuer des gens pour être un meilleur interprète, mais avoir une expérience dans la vie et de rencontrer des gens qui font autre chose que de la danse classique à l'Opéra de Paris, je crois que c'est hyper important et c'est hyper sain. Être danseur étoile, je le vois comme un passeport pour interpréter des rôles. Et mon idéal, c'est d'avoir une technique classique hyper solide, mais de réussir à apporter des choses nouvelles à mes interprétations et de vraiment pouvoir raconter des histoires de la façon la plus évidente et la plus lisible possible.
Ça veut dire que votre corps, il doit raconter un sentiment. Mmh. Il doit raconter la tristesse. Mmh. Ou il doit raconter l'amour. Mmh. Or, vous ne parlez pas.
Oui, c'est vrai.
Comment vous faites ?
Par exemple, quand on tend la main à quelqu'un, en danse, bien sûr, c'est plus raffiné, c'est plus chorégraphié, mais il y a mille façons de le faire. Je peux le faire violemment comme un défi, je peux le faire amicalement, je peux le faire amoureusement. Et c'est juste... En fait, c'est un langage, quoi, c'est un vocabulaire, mais en soi, qui est complètement inspiré de la vraie vie.
Là, dans les exemples, parce que vous avez fait les gestes à chaque fois, il y a vachement une question de rythme.
Oui.
Plus ou moins lent, plus ou moins.
La notion de musicalité et de comment les pas qu'on fait s'inscrivent dans la musique, c'est hyper important. Et c'est aussi ça qui dicte une émotion. En fonction de sur quelle note je fais quel pas, sur quelle note je fais quel port de tête, quel instrument joue à quel moment, tout ça, c'est des choses qui transcrivent l'émotion et qui forment un personnage.
Et le visage alors ? Parce qu'on parle du corps des danseurs,
oui.
De leurs pieds, de leurs cuisses, de leurs bras, tout ça,
mm-hmm.
Mais le visage ?
C'est un vrai travail qu'on fait déjà à l'école de danse. On a des cours de mime, on a des cours d'expression musicale avec un professeur qui s'appelle Monsieur Scott et qui nous poussait vachement à chanter, mais en ayant des expressions, à pas juste chanter le texte, mais à chanter avec nos mains, avec notre regard, avec une forme d'intensité. Et du coup, ça nous a formés à cette dimension théâtrale qu'a le ballet.
Eux sont deux pour danser, Voyou et Vanessa Paradis, pour cette chanson pépite qui s'intitule « Le bal ».
Issue de secours, aux lueurs pâles de la nuit qui cède au jour, se joue le bal de la vie et de ses amours, ce qui s'efface et ce qui resteront toujours.
Un grand bal qui s'étale, ravissant, insensé, 100 000 âmes qui s'emballent devant mes yeux cloués. Certains dansent, d'autres y pensent, et puis lui qui s'avance. En quelques pas de danse, c'est vrai,
j'ai flanché, genoux au sol. On a dansé sous les valses folles.
Dans cette salle sans issue de secours,
brillant le bal me rappelle mes amours.
Premier fil se confondra d'autres contours.
Qu'un coup de cils m'a fait perdre pour toujours.
C'est sans mal, je l'avoue, que déroule sous mes doigts une première cavalière, une deuxième et puis trois.
Je m'emballe et me perds dans cette salle bondée où tourbillonne autant de beauté.
J'y perdrai.
Mes yeux se figent sur un beau portrait qui semble lassé d'une étreinte trop serrée. D'un geste se dégage et fend dans l'assemblée.
Me rejoint pour une danse à ses côtés. On a dansé des années à perdre la tête. J'en garde encore quelques ampoules assez discrètes. Mais souvent les valses se soufflent avant la fin. On est
proche et pourtant bien assez loin.
Guillaume Diop, danseur étoile et dans Totémique jusqu'à 10h. À l'été 2020, avec 5 danseurs, Guillaume Diop coécrit un texte intitulé « De la question raciale à l'Opéra National de Paris ». Co-auteurs et co-autrices sont tous métis, nés d'un père ou d'une mère d'origine africaine. Le père de Guillaume Diop est né au Sénégal. Le manifeste recueille 400 signatures et pose plusieurs objectifs. Sortir la question raciale du silence à l'opéra, déjà. Pointer le maquillage inadapté, les représentations coloniales que compte le répertoire ou le plafond de verre dans le recrutement. Faire ce geste et co-écrire ce texte, puis le diffuser, a changé la vie de Guillaume Diop.
En fait, il a changé ma vie, et pas que à l'opéra, en fait, ma vie personnelle. C'était pendant le Covid, c'était en 2020. Sortie du Covid, on dansait pas du tout, l'opéra était fermé. Et pendant tout ce temps, je prends le temps de me documenter sur des choses qui font pas partie de l'opéra. Et
sur quoi?
Surtout sur la question de la condition des personnes noires en France, aux États-Unis, dans le monde, en fait, en général. Parce que c'est des questions que je me pose depuis toujours, mais où je me suis jamais vraiment penché sur la chose et intéressé au-delà de ce qu'on apprend à l'école. Et il y a le décès, le meurtre de George Floyd aux États-Unis.
Tué par un policier par asphyxie.
Exactement. Et ça a créé un mouvement social planétaire complètement dingue, à la fois fascinant, à la fois hyper violent dans ce que ça raconte, mais profondément nécessaire, je pense. Et beaucoup de compagnies de danse prennent la parole, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans la presse, et l'opéra, non. Donc on commence à se poser des questions, on se réunit de façon très naturelle, en fait, avec mes collègues métis, Laetitia, Awa, Jack et Isaac, qui sont mes amis. Et on commence un peu à se raconter comment notre couleur de peau a affecté notre parcours, quels questionnements ça a soulevé, quand est-ce que ça a été dur, quand est-ce qu'on s'en est foutu, quand est-ce que ça a été une force. Et on partage en fait notre vécu, ce qu'on n'a jamais fait avant.
Pourquoi vous ne l'aviez jamais fait avant?
C'est une question qui est folle. Je pense qu'en fait, on était tellement dans une dynamique de se dire qu'on voulait appartenir au groupe et que cette différence, on n'avait pas vraiment envie de la voir, qu'en fait, on n'en a jamais discuté aussi profondément. Et donc là, on s'est vraiment posé, on a discuté, et ça nous a fait énormément de bien, c'était très émouvant. Et suite à ça, on s'est dit, en fait, c'est pas normal que justement, on ne s'en soit jamais parlé avant et que la parole sur la question de la couleur de peau, elle soit aussi tabou à l'opéra. Je pense que de toute façon, c'est quelque chose qui est tabou en France en général. Mais on est une institution culturelle, artistique, et je pense que dans l'histoire du monde, l'art a toujours été un excellent vecteur de messages politiques. Et on s'est dit que c'était qu'il fallait qu'on fasse quelque chose et qu'on avait envie que ça se passe dans le calme, dans la discussion, et qu'on trouve vraiment des moyens pour que les choses avancent, mais dans un climat le plus paisible possible.
Oui, parce qu'il y a un ton dans ce manifeste. Ma question par rapport à ça, c'est déjà, est-ce que vous avez hésité? C'est une chose d'échanger des expériences, mm-hmm. et c'en est une autre d'écrire un texte, mm-hmm. et ensuite de le diffuser.
Oui, bien sûr, on a hésité pendant très longtemps, on était extrêmement stressés de le faire, mais... Parce qu'on était tous très jeunes déjà, et que l'opéra, c'est une institution qui est très hiérarchisée, et on avait l'impression que c'était un peu se mettre en danger d'évoquer ces questions-là, parce que c'est quelque chose de tabou. C'est vrai que dès qu'on parle de questions raciales, les gens se crispent. Et du coup, on avait peur que ça nuise à notre carrière, très clairement, de faire ce geste-là. Mais finalement, on a toujours été guidé par quelque chose de l'ordre de se dire que c'était maintenant ou jamais. On sentait qu'il y avait quelque chose qui se passait, ou si on le faisait pas maintenant, ça n'arriverait jamais. Et au-delà de le faire pour nous, pour que ça se passe mieux pour nous à l'opéra, on savait que c'était important de le faire pour les générations futures, pour que les gens se sentent représentés à l'opéra et que l'opéra soit un espace accueillant. Et du coup, ça a été stressant. Mais quand on s'est dit qu'on allait le faire, on a gardé notre ligne. Mais après, le manifeste, il n'était pas du tout destiné à sortir dans la presse. Il a fuité, en fait. Mais nous, justement, on redoutait ça, parce qu'on voulait que ça se passe à l'intérieur de l'opéra pour que ça se fasse le plus naturellement et le plus sainement possible.
Il y a aussi, après, vous concernant, comme vous avez été nommée étoile il y a un an pile, en regardant les articles vous concernant, les titres, c'est « Le premier danseur noir, étoile ». Donc, il y a aussi, finalement, le fait que votre couleur soit annoncée avant même votre talent.
Oui.
Comment vous l'avez vécu, ça ?
Au-delà de comment je l'ai vécu, c'est comment je le vis, parce que c'est quelque chose que je vis, même si c'était il y a un an, c'est quelque chose qui est encore très présent quand même. Honnêtement, j'ai aussi vraiment entre me dire, écoute, Guillaume, c'est un fait, tu peux pas reprocher aux gens de dire quelque chose qui est factuel. Et en même temps, il y a quelque chose un peu que je trouve dur, c'est que tout simplement, c'est pas quelque chose dont j'ai envie de parler tous les jours. Il y a des jours où j'ai juste envie de parler de mes pirouettes, de mes sauts, de mes entrechats, et où j'ai pas envie de parler de ma couleur de peau, même si ça fait partie de moi, bien sûr, c'est mon identité. Mais avant tout, j'ai été nommé danseur étoile à 23 ans, sans passer par le grade de premier danseur, ce qui est quelque chose qui est exceptionnel. Et c'est difficile pour moi, parce que ça a aussi été un moyen pour beaucoup de personnes de dire que je ne méritais pas ce titre, que de toute façon j'avais écrit un manifeste en 2020 sur la question raciale, que du coup l'opéra s'est empressé de me nommer étoile parce que j'avais écrit ce manifeste comme si je l'avais écrit tout seul, et qu'en fait j'ai dû travailler énormément dans des conditions extrêmement difficiles pour en avoir parlé avec d'autres danseurs étoiles. Il n'y en a aucun qui a fait des prises de rôle dans des conditions aussi extrêmes que les miennes. Et tout ça, c'est...
À savoir 15 jours de répète et roule Pedro, quoi.
Oui, j'ai fait une fois une semaine pour Roméo et Juliette, 3 jours pour la Bayadère, 2 semaines pour le Lac des Cygnes. Donc c'est des conditions qui sont extrêmes. Et si ça s'est bien passé, c'est parce que j'ai travaillé tout seul de mon côté et que je me suis donné les moyens pour que ça marche. Et ce que je trouve injuste, c'est quand je vois un article qui dit « Guillaume Diop, premier danseur étoile noire, nommé à 23 ans. En 2020, il écrit un manifeste, fin de l'article. » Et ça, c'est quelque chose qui m'énerve, parce que bien sûr que le manifeste, c'est un moment qui est hyper important dans ma vie, dans ma carrière, et c'est quelque chose dont je suis extrêmement fier, mais c'est pas ça qui fait que je suis danseur étoile aujourd'hui. Et je trouve que de coller le manifeste et ma nomination, c'est quelque chose de malhonnête, en fait.
Pour terminer là-dessus, concernant le ton de ce manifeste, qui est très factuel, parce que c'est extrêmement concret. Et quand on ne vit pas cette expérience, on se dit après coup, ah mais oui, la couleur des collants, les coiffures, c'est des détails qui n'en sont pas.
Oui, c'est ce qui fait que... Parce qu'en fait, c'est des petites choses quotidiennes et qui peuvent paraître complètement basiques. Et le fait que, justement, elles n'existent pas pour des textures de cheveux différentes, pour une couleur de peau différente, c'est comme si ça nous rappelait qu'on n'a pas notre place ici. Et c'est en ça que c'est très fort aussi, je trouve, de rappeler qu'en fait, les choses les plus simples de la vie, c'est ça qui vous font vous sentir le plus différent, et c'est ça qui est le plus important. Et c'est vrai que même moi, aujourd'hui, en tant que premier danseur étoile noire, je me vois confronté à certaines choses. Par exemple, dans l'histoire de Manon, un ballet qu'on a donné en juin-juillet dernier à l'Opéra. C'est un ballet qui se passe à l'époque de la Régence, et le personnage principal, le chevalier des Grieux, il porte un catogan. Et moi, avec ma texture de cheveux, on a essayé tout le service coiffure qui ont gentiment essayé de me faire un catogan avec des cheveux frisés. En fait, c'était bizarre, on comprenait pas, parce que moi, mes cheveux, quand ils sont longs, ils tombent pas, ils gonflent. Donc forcément, d'avoir tout d'un coup des petites frisettes qui tombent, ça avait pas de sens. Du coup, j'ai décidé de me faire des tresses collées. parce que j'ai trouvé des illustrations du Chevalier de Saint-Georges, qui était un violoniste, chef d'orchestre et escrimeur. Et j'ai trouvé une illustration de lui avec des tresses collées et un catogan. Donc j'ai décidé de faire des tresses collées avec l'accord de la direction de l'opéra et des ayants droit du ballet L'Histoire de Manon. Et j'étais terriblement stressé de faire ça. Alors qu'en soi, c'était une décision que j'ai prise juste pour faire au mieux, en fait, pour l'histoire du ballet, pour moi, comment je me sens. Et j'étais hyper stressé de me dire, je vais danser avec des tresses collées qui sont clairement quelque chose issu de la culture africaine, qui est aussi ma culture. Et j'étais hyper stressé de ramener ça à l'opéra. Et après coup, j'en étais fier aussi, mais ça a suscité des réactions que j'ai trouvées violentes encore, en fait. Et c'est pas facile, j'ai lu sur des articles que c'était un caprice juvénile, quelque chose de complètement irréfléchi, alors que justement, en fait, je me suis creusé la tête pendant 3 mois pour essayer de trouver une solution qui soit la mieux pour le public, pour l'histoire et pour moi. C'est encore une fois la facilité de dire « il est jeune, il est noir, il veut faire des choses différemment, il veut secouer l'opéra ou je ne sais quoi », mais... Les faits sont que c'est la première fois qu'il y a un danseur étoile comme moi et que du coup, forcément, il y a des choses différentes que je vais être obligé de faire parce que tout simplement, je suis différent, quoi.
J'aimerais qu'on écoute la voix que vous avez choisie. C'est la voix de Christiane Taubira. Vous vouliez entendre un moment où elle s'illustre dans son éloquence. Mm-hmm. J'ai donc choisi le débat qu'elle a mené à l'Assemblée nationale pour le mariage pour tous. Mm-hmm. On va écouter un extrait de ce débat.
Monsieur le député, vous n'allez pas nous faire croire que vous vivez dans un igloo et que vous n'avez aucune connaissance de la diversité des familles dans ce pays, que vous ignorez complètement qu'il y a des familles homoparentales dans ce pays, que vous ne savez pas qu'il y a autant d'amour dans des couples hétérosexuels que dans des couples homosexuels. Bon. Je vais vous dire ce qu'ils vous auraient dit, Léon Gontran-Damas, par rapport à ce que vous nous dites. Et ça, c'est dans Black Label. Lorsqu'il dit « nous les gueux, nous les peuh, nous les chiens, nous les riens, nous les maigres, nous les nègres, qu'attendons-nous ? Qu'attendons-nous pour faire les fous, pisser un coup sur cette vie stupide et bête qui nous est faite ? Si nous, nous n'accordons pas l'égalité des droits, si nous, nous ne reconnaissons pas les libertés, nous leur disons, qu'attendez-vous pour faire les fous sur cette vie stupide et bête qui vous est faite ?
Ça me met les frissons. Tous ces discours à l'Assemblée nationale, notamment le dernier, ça m'a énormément marqué parce que c'était tellement un message d'amour sur l'acceptation de l'autre dans toute sa différence, dans toute sa complexité. Et puis c'est une figure d'une femme noire, puissante, qui s'exprime bien, qui... Ouais, je sais pas, j'ai énormément d'admiration pour elle, même la façon dont elle a géré le nombre de critiques et d'injures racistes qu'elle a subies et la façon dont elle l'a géré avec tellement d'élégance, tellement d'humour et une force. C'est quelqu'un que je trouve d'extrêmement inspirant.
Enjoy your life, elle l'a dit. Elle est anglaise et s'appelle Romy.
des danseurs étoiles. Il s'appelle Guillaume Diop et il est au micro de Totémique. Après un stage d'été dans la compagnie fondée par le chorégraphe afro-américain Alvin Ailey à New York, que Guillaume Diop a compris, la danse, ce serait sa vie. Au sein du Alvin Ailey American Dance Theater, il était en présence de danseurs plus âgés et peut-être plus libres aussi.
C'est vrai qu'à l'école de danse de l'opéra, il y a quelque chose de très horizontal dans la façon de gérer les danseurs, et ce qui est très bien, parce que je pense que c'est sain pour des élèves d'être tous traités de la même façon. Mais il y a quelque chose de très uniforme aussi, parce qu'on représente un peu le style de danse classique à la française.
En quoi il y a une spécificité française dans le classique ?
En France, vraiment, la prouesse technique, la virtuosité, elle est toujours au service du personnage et un peu retenue. Alors que, par exemple, la technique classique à la russe, ils vont faire des sauts énormes, des pirouettes de dingue et le vendre comme s'il venait de faire le tour de la Terre en 5 minutes, et ce qui est très bien. Alors qu'en France, tout doit être très propre, très contrôlé, très maîtrisé, très raffiné. Et du coup, c'est un travail qui est...
moins extraverti, en fait.
Voilà, moins extraverti, très méticuleux et oui, il y a quelque chose un peu presque freiné, quoi. Je ne sais pas comment expliquer, mais c'est très, très agréable.
Finalement, c'est très agréable.
Tout le processus, il est dur pour intégrer ça à son corps, mais une fois qu'on y arrive, il y a beaucoup de satisfaction qui sort de ça.
Pour votre carte blanche, on va écouter un extrait de Gisèle, où vous interprétez Albrecht, donc un prince qui se fait passer pour un paysan dont Gisèle tombe amoureuse. Et l'idée, c'est que vous racontiez l'histoire en mouvement.
D'accord.
Ok. Attention.
Alors là, c'est un moment dans l'acte 2 de Gisèle, où Gisèle est morte et elle revient à la vie comme un espèce de fantôme qu'on appelle les Willis. Et ces Willis, elles sont dirigées par Myrta, qui est la reine des Willis, et qui les fait revenir à la vie en tant que fantôme la nuit pour tuer les hommes qui les ont trahis. Donc des femmes très puissantes. Et donc à ce moment-là, sur cette musique, Myrta, donc la reine des Willis, ordonne à Albrecht, qui est venu voir Gisèle sous forme de fantôme, de danser jusqu'à la mort. Et donc là, Albrecht fait une série de 32 sauts qu'on appelle des entrechassis, où on va venir croiser les jambes à 3 reprises pendant un saut, et donc on fait ça 32 fois. Et là, sur cette musique très puissante, c'est à ce moment-là qu'on commence les entrechassis. On est encerclé par les Willis avec Myrta, la reine des Willis, devant, et c'est un moment qui est très... émouvant, parce qu'il y a le dépassement physique, et en même temps c'est un des rares moments de danse classique où on peut s'autoriser à montrer cette douleur et cette difficulté, puisqu'elle sert le personnage qui est absolument épuisé de danser.
Et les entrechassis, ça doit être extrêmement anxiogène.
C'est anxiogène parce qu'on se demande si on va arriver au bout, si on va réussir à faire les 32.
Oui, c'est ça, quand on commence la série.
Bah, quand on commence à entendre la musique, on se dit, bon, là, ça y est, c'est parti. Faut y aller.
Est-ce qu'il peut arriver qu'on pense complètement à autre chose pendant un ballet ?
Pendant un ballet, alors oui, moi ça m'est déjà arrivé, parce que c'est vrai que il y a des ballets où il y a des moments où on fait pas grand chose en fait, et c'est souvent les moments en termes d'interprétation qui sont les plus compliqués, c'est comment habiter la scène et comment continuer d'être dans le personnage sans rien faire. Par exemple, le prince Siegfried dans le lac des cygnes, pendant l'acte 1, il y a des longs moments où il est juste assis sur le trône et où il est en train de rêver à autre chose, à se demander comment il va réussir à se défaire de cette pression sociale qui vient avec son titre, comment il va pouvoir réussir à dire à sa mère qu'il n'y a aucune femme qui l'intéresse et qu'il n'a pas envie de se marier. Et ça, mais c'est très long. Et moi, ça m'est déjà arrivé Après, donc, comme c'était Siegfried, ça va, parce qu'il était rêveur, et du coup, j'étais vraiment en train de rêver, parce que j'étais vraiment dans mes pensées, et d'être, je me souviens très bien, j'étais sur la scène de l'Opéra Bastille, fin décembre, j'avais fait plusieurs spectacles du Lac des Cygnes, j'étais très fatigué, et j'étais assis sur le trône, et je commence à regarder quelqu'un dans le public, et à m'imaginer sa vie, en fait. Et puis il y a eu un espèce d'accent dans la musique où ça m'a remis dedans et je me suis dit oulala Guillaume t'es fatigué. Donc oui ça arrive, j'espère que ça m'arrivera pas trop souvent mais ça arrive.
La toute dernière séquence de cette émission c'est une séance photo.
Ah ok.
Ouais. On y va?
Allez.
On va juste attendre qu'elle se développe. Ça apparaît petit à petit.
Trop bien.
Photo dans la loge. Alors ?
Oui, j'ai l'air heureux. Hein. Grand sourire, comme d'habitude.
Merci, Guillaume Diop.
Bah, merci à vous, c'était un plaisir. Merci beaucoup.
Guillaume Diop tiendra le rôle principal dans Don Quichotte du 19 au 23 avril à l'Opéra Bastille. Il sera ensuite le prince Albrecht dans Gisèle, rôle qui lui a valu sa nomination d'étoile. Ce sera les 6, 8, 10 et 13 mai à l'Opéra Garnier. Et je précise qu'il est le parrain de l'opération Tous à l'Opéra. Les 3, 4 et 5 mai, Tous à l'Opéra, c'est partout en France, de Nantes à Avignon, en passant par Limoges ou Dijon. Coyenne Guyenne, réaliste totémique, c'était avec Mathias Alléon ce matin. Perrine Malin, je programme les invités de l'émission. Ilinka Negulesco prépare son et documentation. Quant à JB Audibert, il assure la programmation musicale. La semaine prochaine, nous serons dans une salle de ciné avec Isabelle Huppert. Dans quelques minutes, c'est lui, Ali Rebéi, qui est au micro pour grand bien vous fasse. Salut Ali.
Bonjour Rebecca, à l'occasion de la sortie des Yeux de Mona de Thomas Schneesser, nous proposons quelques tableaux qui font du bien en compagnie de la chroniqueuse culturelle Camille Jounot et avec la conservatrice générale du Louvre, Dominique de Fonréau. Et vous Rebecca, on vous retrouve évidemment dans Le Masque et la Plume, dimanche à 10h et à 20h.
Merci Ali, à tout de suite.